Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche que j'ai intitulée aujourd'hui « Dormir, jadis, en Basse-Marche, le sommeil, la chambre, le lit ». Ce sera notre 206e émission et notre 150e chronique. Pour les textes, nous avons fait appel aux auteurs et aux ouvrages suivants. Alain Corbin, Archaïsme et modernité en Limousin au 19e siècle. Albert Gourceau, La société rurale traditionnelle en Limousin et Basse-Marche. Charles Sylvestre, Un extrait de Cœur paysan. Claude Dahadoun, Mémoire d'un village limousin blond 1789-1795. Maurice Robert, La maison, le village, le paysan limousin. Louis Peignot, Bergère, éternelle bergère. Et au bulletin, Nos ancêtres, vie et métier, un monde à vivre.
La Basse-Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche.
Dans certains milieux et dans l'histoire, le lit et la chambre ne servent pas qu'à dormir. Ils servent aussi à la toilette. C'est encore le lieu où l'on prend son petit déjeuner, sa collation, le lieu où l'on reçoit les visiteurs. Ce n'est pas le cas chez les ruraux bas-marchois et particulièrement chez les paysans où le lit ne sert qu'à dormir. Alors combien de temps les bas-marchois du 18e, du 19e et même du 20e siècle passaient-ils au lit? Cela dépend de la saison. L'été, très souvent la nuit se limite à 6 heures, alors que l'hiver, qui est la période de récupération, la nuit de sommeil peut durer jusqu'à 8 heures. En effet, l'hiver, le paysan est à l'étable dès 5h30 et il soupe vers 19h, 19h30. Puis c'est la veillée qui va conduire vers 20h30, 21h, beaucoup plus tard lorsque les familles et amis s'invitent à la veillée. Celle-ci peut alors se prolonger jusqu'à minuit, voire 1h du matin, mais c'est exceptionnel. En été, dès que le soleil pointe, le paysan se lève, c'est-à-dire en règle générale à 4h à l'heure du soleil. On ne paraisse donc pas au lit et on n'y revient pas dans la journée. La sieste n'est pas une pratique coutumière de notre région. Le souper se prend en général vers 21h. On le voit donc, je me répète, finalement, on passe peu de temps au lit. Aussi, la chambre n'est pas une pièce essentielle de la maison traditionnelle bas-marchoise.
Grandes histoires de la Basse-Marche.
Alors qu'en est-il de cette chambre? Nous interrogeons Albert Gourceau. Dans les maisons sans étage, ne possédant qu'une seule pièce, un, mais plus souvent deux lits, étaient rangés tout au fond de cette pièce et on en trouvait parfois un troisième dans une chambre que l'on avait aménagée dans l'étable pour le gardien du troupeau. Lorsqu'on se mit à bâtir un étage, on laissa d'abord le lit des parents âgés dans la cuisine. Comme ils ont le sommeil léger, disait-on, ils seront mieux placés pour entendre ce qui peut se passer la nuit dans la grange ou dans les étables. À cette époque, le lit du domestique, garçon ou fille, se trouvait dans la chambre de débarras située de l'autre côté de l'escalier. Les lits des parents et des enfants, au nombre de deux ou trois, selon la composition de la famille, étaient à l'étage. Puis, la recherche d'un confort meilleur en même temps qu'une appréciation plus évoluée des règles d'hygiène et de décence firent supprimer le lit de la salle commune pour le transférer dans la pièce de débarras transformée en chambre véritable. Précisons que ce transfert ne se fit que dans un petit nombre de demeures, bien des autres continuèrent à posséder au moins un lit dans la pièce commune. Dans l'extrait qui suit, provenant du roman de Charles Sylvestre Cœur paysan, on voit combien cette promiscuité peut être gênante. Nous sommes à la période des fréquentations des jeunes fiancés. Puis l'amoureux fréquente la petite chez elle à la veillée. Un dimanche, comme il l'a aidée à garder ses bêtes, elle l'invite à souper et lui sert de la crème au dessert. Les vieux se couchent. Leur venue, puisque les lits sont là, dans l'alcôve de la maison, la grande pièce à la fois chambre à coucher, salle à manger et cuisine. Le garçon reste pour faire compagnie à sa bonne amie, sagement. Si la lumière s'éteint, par hasard, les vieux sortent de leur somme. « Ah ça les jeunes, hein, rallumez ce chalaï !» Concernant les chambres et les lits de la région de Blon, Claude Haddoun confirme ce que nous venons de dire. Contre les murs se trouvent trois ou quatre lits, certains confortables comme celui du maître. Un lit plus modeste sert au deuxième couple. Et plus loin, de chétives litières réservées aux enfants et aux adolescents. Les lits, écrit Albert Gourceau, étaient de trois sortes. Le modèle le plus ancien, le lit à quenouille, était appelé ainsi parce qu'à chaque angle s'élevait une haute colonne soutenant le plafond du lit auquel étaient accrochés les rideaux. Le second était le lit à l'ange, qu'en Limousin, on appelait également lit à la duchesse, sorte de lit de milieu avec ciel de lit suspendu aux poutres du plafond. Le lit de coin, dont la largeur ne dépassait pas 1,20 m, qui se substitua rapidement aux deux autres modèles, très encombrant. Les lits à quenouille étaient généralement en chêne ou en cerisier, les lits à la duchesse en bois d'ébénisterie, surtout en noyer, et enfin les lits de coin étaient généralement en cerisier.
Et grandes histoires de la basse marche.
La literie, maintenant. Dans tous les modèles, la literie était supportée par un cadre à claire-voie. Elle comprenait une paillasse, poche de grosse toile remplie de paille ou de balles de maïs. Il n'y avait donc pas de sommier. Un lit de plume, un traversin en plume, deux draps de grosse toile de chanvre, un couvre-pied fait de laine simplement dégraissée, cousue dans une poche de satinette jaune ou bleue, mais le plus souvent rouge, et quelquefois un édredon de duvet d'oie. La ménagère soigneuse, ajoute Albert Gourceau, recouvrait cette literie d'une couverture blanche à franges en coton damassé ou d'un dessus en dentelle au crochet qu'elle faisait elle-même. Une paire de rideaux avec ciel de lit en cretonne épaisse et comme dessin un fleurage marron ou rouge foncé sur fond bois ou blanc sur fond cerise complétait cet ensemble. Les lits ne devaient jamais être placés en croix, cela portait malheur, mais pied dans pied. Certains poussaient même cette observation jusqu'à orienter le lit dans le même sens que les poutres du plafond. Concernant cette literie pour blond, Claude Doune précise que la couette coussin du maître était gonflée de 40 livres de plumes et tenait lieu de matelas plus une couverture qui le dissimule entièrement. La couette coussin du deuxième couple n'est remplie que de 35 livres de plumes et la couverture est en toile grossière. Et concernant les couchettes des enfants, c'était de chétives litières sans chalis, avec une misérable couette ayant bien peu de plumes et un chevet de lit en balle d'avoine.
Élève-toi donc belle si tu t'en viens danser.
Comment je me lèverai, je viens de me coucher.
Angela, Villariette, Angela, Villariette.
Comment je me lèverai, je viens de me coucher.
Comment je me lèverai, je viens de me coucher.
Entre mes bras, je tiens un joli prévoyer.
Angela, Villariette, Angela, Villariette.
Entre mes bras, je tiens un joli prévoyer.
Entre mes bras, je tiens un joli prévoyer.
Comment le tiendrais-tu, je l'ai vu s'envoler.
Angela, Villariette, Angela, Villariette.
Dans l'ouvrage « La maison, le village, le paysan, Limousin », Maurice Robert dresse une synthèse de tout cela. Les lits, un dans la cuisine pour les grands-parents, les autres dans la chambre, sont toujours aussi frustres chez les petits paysans et de même type chez les plus aisés. On en trouve toujours un dans l'étable qui pouvait accueillir aussi les hôtes de passage. Ils sont encore garnis d'une simple couche de paille, voire de feuilles sèches, mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, les inventaires distinguent la plupart du temps, comme à Saint-Bonnet-de-Bellac en 1882, un lit garni en bois à la Duchesse, essence chêne et cerisier, couette et traversin garnis de plumes ordinaire, paillasse en toile couverte en laine, matelas, rideaux en siamoise et ciel de lit. Il ajoute que les lits bateaux sont fréquents en basse marche où les lits clos sont relativement rares. Ils sont simplement dissimulés derrière des rideaux de coton à fleurs. Il précise qu'à la fin du XIXe siècle, les draps de chanvre, comme les serviettes et les nappes, sont en plus grand nombre et de meilleure qualité qu'au siècle précédent, y compris chez les journaliers.
Le pied à terre, tout doucement s'en est allé. Une main, elle ouvre de la porte, en te régalant si vous m'aimez. Mais la belle s'est endormie entre les bras de son amant, et celui-ci qui la regarde en lui voyant ses yeux.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Quels sont les meubles que l'on trouve dans les pièces à dormir ou près des lits? Les coffres, qui servaient pour ranger le linge et les vêtements, se trouvaient près du lit. Claude Dahadoune, pour les chambres de la paroisse de Blon, compte au moins 3 coffres à linge, avec ou sans serrure, par chambre. Les coffres étaient choisis en chêne. Les qualités de solidité de ce bois et l'aspect massif qu'il donne aux choses convenant parfaitement à des meubles auxquels on ne demandait que d'être robustes. Cependant, les coffres de femmes étaient plus légers et plus élégants. Elle l'avait reçu à l'occasion de leur mariage, tout garni de leur trousseau, et l'avait apporté avec elle lorsqu'elles étaient venues s'installer chez leur mari. Au début du XXe siècle, la plupart de ces meubles avaient été relégués soit au grenier, où l'on y entassait chiffons et vieux habits, soit dans un coin de la grange, où ils terminaient leur carrière comme coffres à avoine. pour remplacer les coffres démodés et donner à la pièce à dormir un aspect plus souriant en même temps qu'un confort plus large, on y installa des commodes, meubles mieux adaptés au service de rangement du linge et des vêtements. Ces commodes, de préférence en merisier ou en cerisier, étaient des sortes de buffets bas de 1,20 m à 1,50 m de large, pourvus de deux portes et de deux tiroirs, le tout fermant à clé. Albert Gourceau précise que les grandes armoires lingères étaient rares dans nos pays pauvres. En revanche, écrit-il, un meuble haut, assez fréquent, était le bahut à deux corps et à deux portes carrées superposées d'un seul battant que l'on appelait retraite en marche. Il était destiné au même usage que la commode. Dans Bergère éternelle, Bergère, Louis Peignot nous fait une courte description de la chambre à coucher. C'est celle où se réfugient deux jeunes mariés pour leur nuit de noces. Les nouveaux épousés, Marcel et Antoine, ont réussi à déjouer la vigilance de leurs invités et à se retirer secrètement dans la chambre d'une maison amie. Ils sont enfin seuls. Marcel connaissait bien les lieux et elle guida sans peine son mari vers la chambre préparée depuis le matin à leur intention. Une petite lampe à essence était posée sur la commode. Antoine l'alluma pendant que sa femme fermait la porte au verrou. Le lit était haut et large, avec sa paillasse gonflée de paille fraîche, sa couette de plumes, son édredon rouge et ses deux blonds oreillers au thé brodé. Une armoire de cerisier et une commode neuve meublaient la pièce.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Par la suite, dans ces pièces à coucher, on ajoutera une table de nuit où l'on posera donc la lampe à essence ou la lampe à pétrole. Et cette table possède un petit tiroir et une porte qui cachent le pot de chambre. Plus tard, on installera la table de toilette en bois dur verni et plateau de marbre sur lequel on pose brocs et cuvettes de toilette en faïence blanche ou en tôle d'acier émaillé. N'oublions pas également le crucifix et la branche de buis bénie que l'on accroche au mur au-dessus de la tête du lit. Ajoutons encore quelques-unes des traditions et superstitions en rapport avec le lit. Poser un chapeau sur le lit ou sur la table de chevet porte malheur. Il en va de même lorsque l'on pose de l'argent, un miroir ou un peigne sur le lit. Par contre, disposer un pot de chambre retourné sous son lit permet de chasser les mauvais esprits. Mettre des pétales de rose dans le lit permet de trouver ou de garder l'amour. Selon les régions, faire le lit à trois, soit porte-bonheur, soit porte-malheur. Et puis n'oublions pas, au saut du lit, se lever du pied gauche augure une mauvaise journée. Concernant les vêtements de nuit maintenant. Alors certes, la chemise de nuit est utilisée depuis l'Antiquité. Mais au Moyen-Âge, il est de coutume de dormir nu. Jusqu'à la Renaissance, on dort nu ou avec sa chemise de jour. la lingerie de nuit ne fera son apparition qu'au XXe siècle. Jusqu'à cette époque donc, les chemises de jour servent aussi de chemises de nuit. Ce sont des chemises longues avec des manches plus ou moins longues et parfois sans manches pour l'été. Le jour, cette chemise longue assurait l'hygiène du corps et l'isolait de la robe. En effet, les femmes des campagnes de basse marche ignoraient le port de la culotte et donc la chemise de corps était suffisamment longue pour couvrir au moins jusqu'à la mi-cuisse. Elle était faite de chanvre et donc remplissait tout à la fois les fonctions de chemise, de maillot de corps, de chemise de nuit et de culotte. Précisons que l'homme et la femme étaient logés à la même enseigne et qu'en règle générale, ces chemises se portaient toute la semaine et n'étaient changées que le dimanche. Dans certains milieux, au cours du XVIIIe siècle, on se mit à utiliser une chemise de nuit baptisée chemise conjugale. Elle avait été inventée par des sœurs pudibondes, des couvents et destinée au trousseau de leurs jeunes pensionnaires prêtes à marier. Cette chemise de nuit du père à la pudeur était dotée d'une ouverture sous le nombril qui permettait aux époux d'assurer une descendance sans pour autant dévoiler les parties les plus honteuses et même le reste de leur corps. D'autant encore que le linge de corps en coton pour remplacer le chanvre n'atteindra vraiment les classes pauvres qu'au XIXe siècle. Plusieurs décennies après la création des bonnetteries industrielles, la douceur du coton gagnera peu à peu toutes les peaux, d'abord avec les caleçons longs et les maillots de corps, inventés par un dénommé Maillot dans les années 1830, puis les caleçons demi-longs avant d'en arriver au slip au XXe siècle.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Deux mots encore, si l'été les chambres des maisons rurales sont assez fraîches, l'hiver, elles sont glaciales. Aussi, dans les milieux aisés, on bassinait le lit avec un moine, c'est une structure de bois et de plaques métalliques où l'on plaçait des braises issues de la cheminée. Dans la plupart des chambres rurales, on se contentait d'une bouillotte d'eau chaude et plus souvent d'une brique vernissée ou d'une pierre lisse emmaillotée d'un vieux tissu diffusant encore quelques heures la chaleur accumulée dans l'âtre ou dans le fourneau. Nous avons parlé avant des édredons de plumes et des couvertures. Notons que bien avant le coucher, le paysan marchois enfilait une sorte de capuchon plus ou moins serré à la tête, le bonnet de nuit qu'il va garder pour dormir pendant l'hiver.
Aux marches du palais, aux marches du palais, il y a une tant belle fille, il y a une tant belle fille. Elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait
de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche intitulée « Dormir, jadis, en basse marche, le sommeil, la chambre, le lit ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie d'Alain Corbin, d'Albert Gourceau, de Charles Sylvestre, de Claude Dadoun, de Maurice Robert, de Louis Peignot et du bulletin « Nos ancêtres, vie et métier ». Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluserne, Lee Ménestrel, au groupe des Traditions de l'Artois, au poème harmonique, au groupe de chant de l'Opéra de Rennes et au Quartet de Lyon que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
Dans un grand lit carré, orné de têtes toutes blanches.
Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région,